L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous voilà pour ce nouvel épisode, si on peut dire, de cet Évangile pour le couple. Avec un évangile tout particulier, aujourd'hui l'évangile de la pécheresse, pardonnée, après avoir la dernière fois écouté l'évangile du couple prodigue, si on peut dire, comme on a essayé de le lire ensemble, on essaie de rentrer davantage dans l'expérience du pardon et de la miséricorde de Dieu, dans tout ce qui concerne notre vie conjugale, la sexualité, nos relations hommes-femmes, avec ce prisme particulier. Mais d'abord, Maud, on va sans doute lire cet évangile.
Oui, c'est dans le chapitre 7 de Saint Luc. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Elle se plaça par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, et se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Est-ce qu'elle est une pécheresse ?» Mais prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme, dit-il à Simon, « je suis entré dans ta maison. » Et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour.
Voilà un magnifique évangile concernant la miséricorde, l'immense miséricorde à la mesure de l'expérience du péché ou de la déviation. On imagine, parce qu'en tout cas c'est l'interprétation qu'en donne la tradition et les pères, on imagine que cette femme avait une vie profondément dissolue. Et puis, même si jamais c'était pas directement le cas, l'évangile nous laisse une certaine liberté, on peut regarder effectivement l'évangile dans ce sens-là, puisque ce qui nous intéresse ici dans cette série d'émissions, c'est l'évangile pour le couple. Et donc, on peut imaginer aussi à la fois un homme ou une femme profondément pécheur au niveau de la sensualité, de la sexualité, de sa relation, au niveau de l'impureté, ou un couple qui a une vie complètement débridée l'un avec l'autre. Et on voit combien le retournement, l'expérience du retournement du cœur que nous avons vu l'autre jour avec l'enfant prodigue, on est dans le fruit de ce retournement du cœur de cette femme qui finalement, à la mesure, je dirais, de sa vie complètement dissolue, va exprimer un amour et un retournement d'amour vers Jésus qui est à la mesure de son expérience de péché. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on a l'impression que elle vient de tellement loin que l'expression de sa tendresse est complètement démesurée, quoi.
Oui, c'est comme si elle avait passé beaucoup de temps de sa vie à être dans un excès de recherche de plaisir en tout genre, et que ayant trouvé le Christ comme l'amour de sa vie, et ben cet excès d'amour se reporte sur lui, et que finalement, avec une pudeur extraordinaire, hein, parce que finalement elle s'attache à Jésus en lui lavant les pieds, donc comme une servante, pas du tout dans une démarche qu'on pourrait interpréter aujourd'hui comme étant érotique ou sexuellement ambiguë, pas du tout. Comme une servante, elle lave les pieds du maître, où elle a enfin reconnu le visage de l'amour qu'elle cherchait depuis tant et tant d'années.
Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir combien, aujourd'hui, quand nous relevons combien le Christ souligne que l'évangile n'est pas fait pour les parfaits, mais est fait pour les pécheurs, et que l'évangile et la parole de Jésus est libératoire, et la rencontre de Jésus est libératoire, particulièrement pour ceux qui sont loin de Jésus. Et dans le domaine qui nous intéresse plus particulièrement, dans le domaine notamment de la sexualité, de l'impureté, d'expériences complètement débridées, de drogue, etc., combien ceux qui rencontrent l'amour de Jésus est profondément libératoire. Nous avons, avec Maud, rencontré ces derniers temps un jeune couple pour nous qui est un peu un symbole de cette expérience. Un garçon vraiment qui a vécu pendant plusieurs années de sa vie dans les bars, la nuit, dans une vie complètement dissolue au niveau sexualité, au niveau drogue, au niveau relation. Et une fille aussi qui était une fille de bonne famille. Ses frères et sœurs avaient très bien réussi, mais elle prenait complètement le contre-pied, un peu écorchée vive, et qui justement avait une vie complètement pas dissolue, qui avait un mec différent dans son plumard tous les soirs, à 16 ans ou à 17 ans. Et puis, entre guillemets, ces deux épaves se sont rencontrées. Et au fur et à mesure, ces deux épaves se sont rencontrées, aimées, déchirées, avaient une vie. Et puis au fur et à mesure, ils ont rencontré Jésus. Et pas de manière immédiate, mais au fur et à mesure, étape après étape, ils ont purifié leur vie, ils ont grandi dans leur vie. Et aujourd'hui, c'est un couple qui est absolument merveilleux, montrant vraiment après une vie de sexualité complètement débridée. Aujourd'hui, ils arrivent à montrer et à illustrer combien effectivement la bonne nouvelle de la sexualité, de la purification de cette sexualité, va justement dilater profondément leur vie et libère profondément leur vie. Et c'est une action de grâce que de voir tout ce que le Seigneur a opéré dans leur vie, et à la mesure, je dirais, de aussi loin ils ont été du Seigneur, et bien combien la découverte du Christ et l'amour du Christ non seulement les a transformés, les a purifiés, mais les a profondément libérés. Et c'est vraiment profondément attirant, une bonne nouvelle par eux-mêmes, de voir un tel couple faire l'expérience de cette bonne nouvelle jusqu'au cœur de leur vie.
Justement, c'est ce qui se passe avec cette scène d'évangile où le pharisien qui pense qu'il est un homme juste parce qu'il obéit à la loi, qu'il prend du temps pour étudier la parole, il a une vie digne, etc. Il ne manifeste pas l'amour que Jésus pourra attendre de sa part, parce que le pharisien n'a pas fait ce chemin du repentir. Il n'est pas passé, comme la pécheresse, par ce moment où, dans les larmes et les pleurs, elle a reconnu sa misère et comment est-ce que le Seigneur allait enfin répondre à son attente. Ce chemin-là, le pharisien ne l'a pas fait. Donc, quelque part, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'encore une fois, l'évangile inverse tout. Les premiers sont les derniers sont les premiers, nous dit-on. Eh bien, voilà que la femme pécheresse, qui était si, je dirais, enfin, qu'on pouvait vraiment, dont on pouvait trouver que le comportement était absolument, enfin, inadmissible, insupportable, provoquant, tout ce qu'on veut, c'est elle qui va être notre maître et notre modèle dans le domaine de l'amour. Et finalement, le pharisien, qui apparemment aux yeux des hommes est un homme juste, eh bien, son amour est bien terne, bien fade. Il offre à Jésus, mais bon, il lui ouvre sa table, mais il le reçoit comme un d'égal à égal, quasiment. Il ne reconnaît pas en lui le Sauveur. Il ne reconnaît pas en lui le Maître. Il ne reconnaît pas en lui celui qui a bouleversé sa vie. Et c'est tout le mystère de l'Évangile qui, finalement, inverse les situations.
Et c'est vraiment cette femme aux 500 deniers de dettes, comme parle Jésus, qui est vraiment la figure évangélique par elle-même, qui vraiment va témoigner de la purification et de la conversion à laquelle mène Jésus. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est une fantastique bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, au niveau des jeunes, au niveau des couples, eh bien effectivement, malgré ou même à cause, on dirait même presque à cause de toute cette expérience, peut-être loin des desseins de Dieu, eh bien le Seigneur vient nous apporter la preuve qu'il peut venir nous libérer et nous faire goûter une vie si transformante. Comme on dit à des moments que certains qui ont vécu, un danger extrême, ont été si près de la mort, justement, ont un goût de la vie exceptionnel, extraordinaire. Parce que justement, ils ont frôlé de très près la mort. Alors que ceux qui sont restés constamment dans leur fauteuil, bon, la vie elle reste un peu terne, elle reste gentillette, mais sans saveur, sans odeur. Au contraire, ceux qui ont frôlé la mort, qui ont exercé l'export de l'extrême, etc., qui ont frôlé l'abîme, eh ben justement, il y a cette conscience si aiguë de l'importance de la saveur de la vie. Il en va de même pour ceux effectivement qui effectivement ont été loin des desseins évangéliques, mais qui à un moment ont rencontré le regard de Jésus et qui vont transformer leur vie. C'est vrai au niveau de la personne, c'est vrai au niveau du couple, c'est vrai au niveau de la sexualité personnelle, c'est vrai au niveau de la sexualité conjugale, c'est vrai au niveau d'une vie peut-être conjugale dissolue, où à un moment effectivement la rencontre du Christ, la révélation du Christ fait que eh bien, à un moment, il y a quelque chose de libératoire, de guérison, et combien, effectivement, sommes-nous témoins que ces couples qui, à un moment, ont habité loin du Seigneur, quand ils l'ont rencontré, on trouve chez eux une telle intensité. Donc, effectivement, si l'un ou l'autre d'entre vous, effectivement, vous êtes dans cette situation, eh bien, loin du Seigneur, eh bien, justement, l'Évangile est plus particulièrement fait pour vous, pour votre conjoint, pour votre famille, et la plus grande encore sera la bénédiction. à nouveau dans ce parcours de l'évangile pour le couple, où nous essayons de commenter, de nous laisser interpeller par l'évangile de la pécheresse pardonnée, qui a exprimé tellement d'amour et de tendresse en pleurant aux pieds de Jésus, en lui essuyant les pieds, alors que le pharisien, le bon pharisien, est choqué, et Jésus l'interpelle en disant, mais c'est cette pécheresse qui a montré immensément d'amour, car elle a été immensément pardonnée.
Oui, Alex, je pense que c'est important de préciser que la parole de Dieu dit dans ce texte, ni l'un ni l'autre, en parlant des débiteurs, ne pouvaient rembourser leurs dettes. C'est-à-dire que pour Jésus, finalement, qu'on doive 50, 500 ou 5000 deniers, de toute façon, on ne peut pas rembourser, quoi qu'il arrive. Par rapport à Dieu, nous sommes débiteurs, infiniment débiteurs, parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Et à la limite, même si on ne lui répond pas, même si on est indifférent à sa présence, il continue à nous aimer. Cet amour est absolument bouleversant. Et c'est par rapport à cet amour que nous sommes, nous, des faibles, qui savons si mal aimer et manifester notre amour. Donc si la Samaritaine dans un autre texte, si l'enfant prodigue dans le texte que nous avons vu la semaine dernière, si cette semaine la pécheresse sont capables de manifester un amour aussi intense, eh bien nous pouvons aussi parler, à contrario, des pharisiens, du fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui eux sont restés bien maugréants, critiquants, un peu en retrait, et qui n'ont manifesté aucun geste d'amour.
Oui, je crois que c'est important, Maud, que tu puisses nous reprendre l'histoire, un peu le commentaire du fils aîné de l'enfant prodigue que nous avons vu la semaine dernière, et effectivement comme ce pharisien aussi qui n'a que 50 deniers de dette par rapport à cette pécheresse qui en a 500, où apparemment dans ces différents textes, dans ces différents événements, et ben d'abord il y a ceux qui sont les grands pécheurs, mais qui finalement expriment, je dirais, la parabole évangélique la plus explicite, et puis qui ceux apparemment qui sont les plus corrects, ceux qui sont les justes, et bien effectivement c'est ceux qui sont peut-être les plus orgueilleux, sûrs de leur bon droit, etc. Et c'est peut-être là où Jésus, c'est cela que Jésus interpelle finalement le plus avec le plus grand de vigueur. Donc que dire justement de ce frère de l'enfant prodigue et de ce pharisien?
Moi, je trouve que d'abord, il faut dire que Jésus a beaucoup d'humour parce que il joue comme au billard. Donc, en fait, il parle de quelqu'un et puis, en fait, c'est pour toucher quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, l'observateur. Dans la parabole de l'enfant prodigue, le fils aîné, qui lui était toujours resté avec le père, devait se réjouir de cette permanence avec le père. Et au lieu de ça, il est jaloux, il calcule, il trouve injuste qu'on fasse la fête pour son frère qui revient. Il y a une sorte de déplaisir à voir que Dieu fait miséricorde. Et c'est là où on touche le problème de la conversion du cœur. C'est que finalement, si on se sent, nous, des justes au comportement correct, nous connaissons le Seigneur, nous ne volons pas, nous ne trompons pas nos conjoints, etc. Nous sommes des gens bien. On est en train de s'enfermer tranquillement dans une vie qui va nous faire perdre le sens même de l'amour. Et on ne sera même plus capable de se réjouir de la miséricorde de Dieu sur les autres. Et ça, c'est très grave, parce que c'est la stérilisation du cœur. Et en fait, ces deux paraboles sont des paraboles qui viennent nous rappeler l'urgence de vivifier notre cœur par un amour absolument extraordinaire qui va faire de nos vies l'occasion de la miséricorde aussi pour nous-mêmes et pour les autres.
Je crois que là, Maud, tu touches un point qui est très important par rapport à la vie évangélique et par rapport à la révélation évangélique. Si effectivement Dieu et son fils Jésus n'est qu'un maître qui apporte la vérité, alors là, il y a ceux qui respectent la doctrine et la loi, et puis il y a ceux qui ne la respectent pas. Et effectivement, le frère de l'enfant prodigue, ou le pharisien face à cette pécheresse, il a raison, parce qu'il se cause de son bon droit, lui respecte, lui il a une dette inférieure, donc il est meilleur que l'autre, donc il regarde l'autre avec mépris. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la révélation chrétienne. Ça, c'est l'ancienne loi. C'est la loi, on peut dire peut-être, de l'Ancien Testament. C'est peut-être l'Ancienne Alliance. La loi de la Nouvelle Alliance, c'est d'abord, bien sûr que Jésus est maître et Seigneur, mais il est d'abord sauveur. Et c'est le cœur de la conversion. Et c'est là que nous devons être introduits. Nous étions l'autre jour aussi avec... avec des personnes qui justement étaient, je suis sûr, qui respectaient la loi, etc., et la loi chrétienne, mais effectivement n'exprimaient pas cette compassion. Et trop souvent, en voyant, en écoutant ces personnes, je nous interpellais nous-mêmes en disant, trop souvent, on dit des belles choses, on raconte des belles choses, on raconte par rapport à l'Évangile, etc., mais en fait, nous ne sommes pas assez nourris de profonde compassion vis-à-vis de ceux qui sont éloignés de Jésus et ceux vers qui justement, attendent cette révélation. Et que, justement, nous n'exprimons pas assez la compassion et l'expression de l'amour qui justement va attirer la personne pour qu'il change de vie. Et que justement cette femme qui s'est tournée vers Jésus, elle a pu le faire parce qu'elle a perçu chez Jésus cet amour, cette tendresse immense qui a fait qu'à un moment son cœur a été retourné. De même pour l'enfant prodigue qui a senti l'amour et la tendresse de son père. Et donc c'est ça qui est important, c'est que l'amour de Dieu et la vérité est d'abord faite pour nous sauver. Et que nous avons les uns et les autres, super croyants ou peu croyants ou pas du tout croyants, d'abord à exprimer, à expérimenter ce salut, que Jésus vient nous sauver. Et dans la mesure où il nous a sauvés, et bien même si nous sommes des justes, nous n'aurons qu'une hâte, effectivement, c'est que les autres goûtent cette expérience et nous chasserons de nos cœurs autant que possible ces attitudes de pharisiens qui sont effectivement si négatives et si anti-évangéliques et qui sont des pièges constants pour nos vies, pour les vies des justes, entre guillemets.
On peut reprendre dans ce texte les gestes d'amour de la femme pécheresse parce qu'ils sont pour nous des indicateurs. On parle de l'huile qu'il devait être répandue sur la tête et l'huile, c'est justement l'huile de l'amour, l'huile de la douceur, l'huile de la tendresse et elle répand du parfum. On sait aussi que dans la parole, le parfum est associé à la prière. C'est aussi dans la prière que l'on peut trouver la manière d'exprimer notre amour. Et puis enfin, on parle beaucoup de ces larmes. Le don des larmes, comme disent les pères de l'Église, c'est le don justement, je dirais, de l'excès d'amour qui arrive dans un excès de faute et de misère. Et je pense que ce qui est très beau, c'est que quand on est capable, au contact de l'amour de Dieu, de pleurer, de laisser couler les larmes, alors on dit que c'est à ce moment-là que le cœur, comment on peut exprimer ça, s'assouplit, se laisse pénétrer par l'Esprit Saint. Il y a une sorte de douceur qui est donnée. Il faut demander le don des larmes. Nous n'avons pas souvent la capacité de nous émouvoir. Or pourtant, l'émotion, mais la vraie émotion, devant la beauté, devant la tendresse, devant l'amour, c'est une émotion qui est un don de Dieu. Et si nos cœurs sont secs, que nous ne pleurons plus, que nous ne sommes plus émus, alors ça veut dire qu'il y a danger, que nous sommes en train de nous fermer à l'amour et que cette pécheresse, elle nous montre un chemin absolument magnifique d'une existence qui est d'une densité extraordinaire parce que ce qui fait la densité, c'est finalement quand nos cœurs vibrent au fond de nous-mêmes.
Et c'est là où nous goûtons et nous voyons, même si nous sommes si éloignés mais avec des vies complètement dissolues, etc., il existe comme un mystérieux ressort intérieur à l'homme, comme cela s'est exprimé chez l'enfant prodigue, s'exprime chez cette femme, c'est que plus on s'éloigne de la révélation et de l'évangile, plus nous sommes réattirés avec puissance si à un moment on accepte d'ouvrir son cœur. Et si le cœur arrive à s'ouvrir, parce qu'il y a l'amour qui s'exprime, parce qu'on accueille l'amour de Jésus, et comme plus on est loin, plus effectivement, il y a comme un ressort qui nous réattire avec puissance et qui nous conduit jusqu'au cœur de Dieu. Alors que celui qui a une vie juste, un peu bourgeoise, tranquille, etc., etc., bah finalement, il va être dans une scène raideur, dans un manque d'amour, etc. Et donc, c'est vraiment un appel à la vigilance pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que le cœur de l'évangile dit vraiment que Dieu est là, qui sonde les cœurs et qui sait quel est le désir de l'esprit qui habite l'intimité de chacun des cœurs. Et que, quel que soit qui que vous soyez qui écoutez cette émission, c'est vraiment le témoignage au travers de cet évangile que qui que nous soyons, le Seigneur vient sonder nos reins en profondeur, vient sonder nos âmes en profondeur, il sait lire le tréfond de notre cœur. Et justement, plus loin, je dirais, nous pouvons être de l'amour du Christ dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale, dans notre sexualité, et bien plus grande est finalement notre aspiration et l'appel à cette aspiration qu'opère Jésus en nos vies pour que se libère et pour que revienne cette conformité au dessein et à l'image de Dieu.
D'ailleurs, je trouve que c'est fabuleux parce que l'histoire de l'Église est pleine de saints qui ont vécu justement ce chemin de l'excès du péché jusqu'à l'excès de la grâce. Et il y a cette phrase magnifique dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, « Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé et règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ. » C'est une vraie parole d'espérance.
À très bientôt.
Extravagant love.